Laurent Bouvet.
Quand on regarde l'évolution sur les 30-40 dernières années, depuis les années 60, on voit que cette question de la communauté a quand même évolué, qu'elle n'est pas restée à son état de définition sociologique weberienne ou tonicienne d'il y a un peu plus d'un siècle. Elle a évolué sous la pression de ce que l'on peut appeler le tournant identitaire. Alors qu'est-ce qu'on appelle le tournant identitaire ? C'est de manière donc très ramassée l'idée qu'à partir des années 60, et notamment à la fin des années 60, et ça s'est développé depuis, un certain nombre d'aspirations nouvelles se sont faites jour dans les sociétés développées, les sociétés occidentales, on va dire, pour ramasser un peu là aussi le champ géographique, avec comme idée neuve, en quelque sorte, l'idée de mettre des identités, des appartenances ethniques, raciales, sexuelles, donc le mouvement des femmes, de deux genres, dit-on aujourd'hui, le mouvement des femmes, le mouvement de libération homosexuelle, etc., de mettre des identités qui composent l'identité multiple de chacun en avant, par rapport à, au fait qu'on est simplement un individu titulaire de droit dans une société donnée, un individu, un consommateur, etc., qui était, une manière de comprendre assez générale les sociétés de l'époque. Il y a donc une sorte de renouveau de la revendication identitaire, ça s'est posé aussi avec les régionalismes, par exemple, donc sous beaucoup de formes, par rapport à une société d'individus libres, autonomes, titulaires de droits, dans lesquels la préoccupation principale était celle des intérêts socio-économiques, du développement socio-économique, des rapports de force, de la lutte des classes. Bref, une idée du pluralisme qui tient au pluralisme des identités plus qu'à celui des intérêts et de leurs conflits, comme l'a montré l'évolution de la société depuis la révolution industrielle jusque dans les années 60. Donc l'idée que des identités remplacent en quelque sorte ou viennent se juxtaposer, parfois remplacent, parfois se substituent, peu importe, en tout cas à une simple définition d'intérêt. Alors ce que ça provoque, et là on en vient à aujourd'hui, ce que ça provoque évidemment, ce sont des demandes nouvelles, des demandes particulières qui n'ont pas été traitées dans la politique moderne, dans la démocratie, qui n'ont pas été traitées dans la question sociale, qui n'ont pas été traitées même, ou qui n'ont pas été jusqu'au bout, là aussi on pourra voir comment ça s'est fait dans la question nationale, par exemple au XIXe siècle, des identités qui sont désormais, qui se posent et qui sont posées par des groupes qui portent ces revendications au cœur du débat, en disant nous voulons être reconnus, par exemple, en tant que femmes, par rapport à une histoire de domination des femmes, par rapport, nous voulons être reconnus en tant que noirs, parce que, par exemple, aux États-Unis, le mouvement des noirs aux États-Unis dans les années 60, le mouvement pour les droits civiques est une matrice de ces mouvements, parce qu'il y a eu l'esclavage, parce qu'il y a eu la ségrégation. Donc nous voulons être désormais reconnus, nous voulons l'égalité des droits et au-delà de l'égalité des droits, une certaine reconnaissance avec après une déclinaison plus ou moins radicale de ce que signifie la reconnaissance par la société, par la majorité dominante dans une société. Donc toutes ces revendications identitaires aujourd'hui continuent évidemment d'agiter les sociétés contemporaines. Elles posent des problèmes importants. Elles posent en France, comme dans d'autres sociétés, même si chaque société a son histoire particulière de la gestion de son identité, et en France, notre histoire particulière de la gestion de l'identité, la construction de la nation, la construction de la démocratie dans le cadre national, la République, etc., disons, organise ces questions de manière très particulière, et donc il y a une irréductibilité assez importante entre une société et l'autre, même s'il y a des mouvements très larges communs, et c'est à la fois très difficile de comparer et très intéressant. Bien, en France, on a aujourd'hui un certain nombre de revendications identitaires de ce type qui se font jour, qui sont plus ou moins poussées, qui rentrent plus ou moins dans le cadre des institutions au sens le plus large du terme, pas seulement politique, mais des institutions construites dans la société pour permettre de gérer les différences, pour gérer le pluralisme évidemment. Eh bien, on a donc des revendications qui sont là et qui posent problème à différents niveaux, qui posent problème par rapport à différentes politiques mises en place par la collectivité, des politiques publiques mises en place, et on pourra parler évidemment de la discrimination positive, de la lutte contre la discrimination, etc., eh bien, ces demandes identitaires existent. Face à ces demandes, il y a deux attitudes. Soit de dire, ces demandes, elles sont, finalement, elles ne comptent pas, ou elles sont une sorte de bouillon insignifiant de la revendication de la différence. Il y en a eu par le passé, il y en a aujourd'hui. La revendication des Noirs aujourd'hui à travers le fait d'être noir en France, comme le proclame un certain nombre d'organisations, la revendication des femmes, la revendication des homosexuels, etc., etc. Eh bien, ce n'est jamais qu'une autre manière de revendiquer sa différence, comme il y en a eu dans toute l'histoire de France, et notamment, y compris dans le cadre du débat national au XIXe siècle, avec... les régionalismes, enfin on n'appelait pas ça les régionalismes à l'époque, mais les différentialismes en termes ethniques, linguistiques, etc. Et la République, qui a bien réglé ces questions à l'époque, peut régler aujourd'hui de la même manière les questions. C'est-à-dire, il y a un homme, un seul, dans la République, c'est le citoyen. Il y a le citoyen rousseauiste, voilà, et c'est lui qui est le seul homme de l'espace public. Et évidemment, il y a une invisibilité à la différence, aux spécificités, etc. Et des outils comme la laïcité, des outils de ce type peuvent nous aider à régler ces questions. Donc ça, c'est une première manière de répondre à la question, en disant que finalement, le problème, il n'y a pas de problème que le républicanisme tel qu'on le connaît, que ne puisse régler. De problèmes identitaires que le républicanisme puisse régler. Et il y a une deuxième manière de répondre à la question, qui est de dire, mais c'est formidable, ces revendications identitaires de tous les côtés, ces 100, ces 1000 fleurs qui s'épanouissent dans ces revendications de mettre en avant ce qui est l'authenticité de chacun à lui-même, et chacun a le droit de se sentir femme ou homme, de se sentir noir ou blanc, etc., etc. Des identités plus ou moins prescrites, des identités plus ou moins qui peuvent plus ou moins être cachées. C'est pas la même chose d'être femme ou homme, d'être noir ou blanc, ou d'être homosexuel ou ne pas l'être. On ne cache pas, on n'est pas renvoyé à son identité par la société de la même manière, etc. Bref, ce discours, c'est de dire, bah, toutes les identités sont valables, évidemment, accueillons-les dans l'espace public, organisons le débat, la reconnaissance des différences. Et avec un risque, qui est de dire que cette reconnaissance des différences conduise à une sorte de morcellement de la société en autant de morceaux, en autant de parties qu'il y a de possibilités de combiner les identités, et qui réduirait finalement, si on pousse la logique jusqu'au bout, ces revendications à une sorte d'hyper-individualisme où chacun bâtirait, construirait, modèlerait sa petite identité personnelle en prenant un critère, en rejetant un autre, selon les circonstances de la vie, en mettant en avant telle ou telle manière d'être, telle ou telle manière de se présenter dans l'espace public. Et dans cette manière qu'on pourrait appeler différentialiste, qu'on pourrait appeler, alors, beaucoup de termes, il y a également donc une manière de ne pas voir la réalité. Et ce que j'appelle le faux débat, c'est le débat entre ces deux manières de voir le problème. Entre la République résout tout et le différentialisme et l'avenir, si vous voulez. Et ça, c'est le faux débat pour moi. Il y a entre ces deux manières, de fausses manières de voir ces questions d'identité, dont le communautarisme est un des vecteurs, il y a une manière beaucoup plus, je dirais, politique, certainement, de comprendre la question, de reconnaître qu'il y a des nécessités identitaires, qu'il y a une nécessité identitaire chez certaines personnes qui la revendiquent, que ces demandes ne sont pas nulles et non avenues, et que le discours républicain n'est peut-être plus suffisant pour y répondre, mais qu'en même temps, hors de la République, hors de la prise en compte d'une tradition particulière qui est la tradition nationale, la fabrique nationale française, la manière particulière de penser le lien social et politique en France, il n'y a pas, on ne peut pas oublier cette histoire, on ne peut pas oublier cette tradition, on ne peut pas oublier notre manière de faire. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas la Grande-Bretagne, nous ne sommes pas les Pays-Bas, etc., etc. Nous sommes la France, nous avons une tradition républicaine, nous avons une manière de gérer les différences, nous avons des outils comme la laïcité qui sont particuliers, et il faut les utiliser, mais il faut les utiliser en conscience, les utiliser en les modernisant, en les adaptant, sans transiger sur les valeurs. La voie est étroite, le chemin est difficile, mais c'est le seul possible.
Julien Landfried.
Pour aller à l'essentiel, on ne peut pas comprendre le développement du communautarisme si on ne réfléchit pas sur le rôle des victimes dans les sociétés contemporaines, et en France en particulier, puisque c'est le cadre de mon étude. Alors, je précise simplement, puisque Laurent Bouvet a effectivement fait une définition de la communauté et du communautarisme, dans laquelle je me retrouve globalement, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique qui est produite par le triptyque créé par la rencontre entre des entrepreneurs communautaires. Ce que j'appelle les entrepreneurs communautaires, ce sont des organisations communautaires, des associations communautaires, donc on peut les nommer, ça peut être le CRIF, ça peut être le CRAN, ça peut être des organisations ethno-régionalistes qui existent, qui ont des adresses, des noms, des responsables. La rencontre entre ces entrepreneurs communautaires, des médias, qui sont nécessaires à ces entrepreneurs communautaires pour accéder à la notoriété, à la publicité de leurs revendications, et puis un troisième acteur qui est évidemment central, ce sont les responsables politiques. Sans responsables politiques, des revendications qui ne seraient restées qu'au stade de revendications idéologiques, passent dans la loi et deviennent partie prenante du débat politique. Elles rentrent dans la loi, elles sont inscrites dans la loi suite à des propositions de loi, elles sont votées, etc. Premier élément de définition. Alors, les minorités victimaires, pourquoi ? Parce que mon hypothèse, c'est que pour tout un tas de raisons, et pour aller essentiellement parce que la gauche a changé de paradigme politique en 30 ans, les victimes sont globalement passées des prolétaires d'antan, qui étaient le cœur d'analyse idéologique, intellectuelle de la gauche, aux minorités victimaires. Ces minorités victimaires peuvent être des minorités de sexe, des minorités ethniques, des minorités religieuses. Et ce sont elles désormais qui concentrent toutes les attentions. Ce sont elles qui sont dignes d'un respect inconditionnel, qui n'est pas permis de questionner. Et ce sont elles qui ont pris et qui ont substitué, je pense que là on peut parler de substitution, qui ont pris la place des ouvriers ou des prolétaires d'antan. C'est pas neutre, parce que si vous regardez par exemple le Parti Socialiste, si vous lisez le projet du Parti Socialiste pour l'élection présidentielle, et si vous cherchez un terme comme ouvrier dans le projet du Parti Socialiste, vous ne le trouverez pas. Par contre, si vous cherchez un certain nombre d'occurrences qui sont liées aux minorités victimaires, là, vous allez avoir du travail. Hein. Et ce n'est pas neutre. Ça signifie simplement qu'en 20 ou 30 ans, la gauche a complètement changé le logiciel politique, qu'elle est passée d'un modèle explicatif qui était fondé quand même sur une logique assez marxisante à une logique qui est entièrement centrée autour des minorités victimaires. Et quand Ségolène Royal dit « la première mesure que je ferai voter si je suis élu, c'est une loi sur les violences faites aux femmes », elle est complètement dans cette logique-là. Ces critères aujourd'hui de réponse aux revendications des minorités victimaires vous placent naturellement à gauche du spectre politique. En ce sens, le multiculturalisme politique n'est pas tant un système de juxtaposition ou d'à côté du système républicain, c'est vraiment un système de substitution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si la revendication d'intérêt spécifique, catégoriel, particularialiste ne rentrait pas directement en concurrence avec le principe de l'intérêt général, et comme si l'un et l'autre n'étaient pas profondément incompatibles. En l'occurrence, les exemples que j'apporte dans le livre sont relativement clairs de ce point de vue, que ce soit en ce qui concerne les lois mémorielles, les revendications de discrimination positive, qui sont clairement attentatoires à la philosophie républicaine, mais aussi à la loi, la constitution de la Ve République est un peu plus claire à ce sujet, on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas là une rupture qui n'était pas assumée comme telle. Telle est précisément la raison pour laquelle personne ne se définit comme communautariste. Le communautarisme, c'est l'autre, tout le monde est contre le communautarisme. Mais de la même manière, je pourrais dire que personne n'est pour l'inégalité. Pourtant, il y a bien des théories inégalitaires. Et c'est sous l'argumentaire républicain que se déploient les revendications communautaristes. Si vous avez lu la tribune de Patrick Lozès dans le Monde il y a 10 jours, Patrick Lozès, président du CRAN, qui réclamait dans cette tribune des politiques de discrimination positive sur base de quotas ethniques, il le fait évidemment au nom de la République, bien entendu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la véritable tyrannie, de mon point de vue, qu'ils exercent au nom des minorités victimaires dans l'espace public, il est interdit de critiquer les minorités victimaires, interdit sous peine d'excommunication, sous peine de procès, sous peine de diffamation. Et c'est la raison pour laquelle très peu de gens osent s'élever contre les revendications communautaristes. Donc si on ne prend pas en compte cette notion de terrorisme intellectuel, puis de pénalisation des débats, puisque le terrorisme intellectuel vise la plupart du temps à réduire l'éventail de la liberté d'expression sur un certain nombre de sujets à dimension communautaire identitaire, on passe quand même à côté d'une des dimensions fondamentales du problème, qui est que dans des démocraties libérales surgissent des groupes d'intérêts communautaires qui, au nom de la tolérance, réclament en permanence des réductions de liberté d'expression. Évidemment, ils ne le réclament pas au nom de l'intolérance, bien sûr. Les idées politiques sont en permanence corrompues, et c'est au nom de la tolérance qu'on demande à ce que ces contradicteurs soient embastillés, qu'il y ait des procès, qu'ils aient des peines de prison, etc. Et l'exemple d'Olivier Petré-Grenouillot était aussi assez frappant, puisque c'est dans le cadre de la loi Taubira et au nom de la lutte contre le négationnisme qu'un certain nombre d'associations communautaires afro-antillaises ont porté plainte contre Olivier Petré-Grenouillot, hein, bien sûr. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais travail ou autre, c'est toujours au nom du bien que se déploie le mal aujourd'hui. Autre élément, les politiques de discrimination positive. Effectivement, c'est un débat qui est périphérique à celui du communautarisme, sauf que c'est au nom de spécificités communautaires, identitaires, de discriminations passées, d'un certain nombre d'arguments qui semblent aller de soi, qu'on réclame pour soi et pour les siens, non pas enfermement dans sa communauté, mais droits spécifiques, droits créances, et plus de droits pour soi et les siens que pour les autres. Il ne s'agit pas de demander à des ghettos, là. Il s'agit de demander plus que les autres. C'est pour ça qu'une définition purement restrictive du communautarisme qui consisterait à dire le communautarisme, c'est l'enfermement démographique ou communautaire d'individus dans une base géographique, sur un critère identitaire ethnique, religieux, social, etc., sexuel, ne convient pas là-dedans. Parce que l'une des spécificités dans une société radicalement atomisée comme la société française, c'est que les organisations communautaires réclament des surdroits. L'une des spécificités de la France, en dehors de toutes les contre-arguments et sophismes des adeptes des discriminations positives, en particulier comme Lecran, c'est qu'en France, on a un taux d'exogamie ethnique, un taux de mariage mixte, de métissage, si vous voulez, qui est extrêmement important, qui n'a rien à voir avec ce qui peut exister aux États-Unis, par exemple. C'est pour ça qu'il y a quand même une malhonnêteté intellectuelle fondamentale à comparer la situation française avec la situation américaine. C'est-à-dire que comparer la question noire aux États-Unis, qui effectivement existe et qui nécessite réponse politique appropriée à ce qui peut exister en France, c'est quand même énorme. Et d'ailleurs, c'est tellement énorme que ça fait 5 ans simplement ou 10 ans que ça existe. Ça ne serait venu à l'esprit de personne il y a 10, 15 ou 20 ans de décrire les textes du Cran. Quand aux États-Unis les Noirs s'asseyaient encore au bout des bus, en France on avait déjà des ministres noirs au gouvernement. Une autre question qui reste en suspens, c'est la question de la dynamique des ghettos urbains. Il y a un livre intéressant qui est paru dans la République des idées d'Éric Morin, qui effectivement pose des questions intéressantes, puisqu'il tend à montrer qu'il y a une vraie dynamique inégalitaire qui existe actuellement en France, qui se déploie en particulier dans le choix des localisations spatiales des ménages, et que l'un des critères de localisation des ménages, c'est effectivement la connotation ethnique des quartiers. Pour être plus précis, la proportion d'immigrés dans les quartiers, et donc un certain nombre de critères périphériques, la maîtrise de la langue, le niveau de revenu, etc. Bon, ça a toujours existé, effectivement, mais il y a un processus d'aggravation qui est à l'œuvre, qui est assez inquiétant. La question, c'est est-ce que ce processus d'aggravation sera de nature à contrecarrer des effets qui sont très puissants en France, qui sont ceux de la scolarisation publique et de l'exogamie ethnique, qui correspond à un fond anthropologique français assez lourd, qui est que le français croit en l'homme universel, et ce qui n'est pas le cas dans d'autres sociétés. Pas tout le monde, mais enfin globalement, si on compare des sociétés comme la société française et la société allemande, par exemple, on a un groupe paria en Allemagne qui s'appelle les Turcs. En France, on n'a pas d'exemple significativement identique. Ça n'existe pas. Une autre question que je pose dans ce livre, c'est la question des élites, parce que la définition sur laquelle je m'appuie, qui consiste à m'intéresser aux entrepreneurs communautaires, aux médias et aux responsables politiques, fait que je ne parle jamais de communauté. Sans utiliser de guillemets. Pour moi, les communautés, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des entrepreneurs communautaires qui défendent des revendications dans l'espace public et qui rencontrent des médias et des responsables politiques. Et ce qui existe aussi, c'est des élites qui, quand même, globalement, ont abandonné toute idée nationale. À mon avis, l'un des gros problèmes en France, l'endogamie sociale est extrêmement, extrêmement lourde, historiquement, et qu'elle a tendance à s'aggraver. C'est la raison pour laquelle les revendications communautaires et identitaires qui tendent à substituer de l'ethnique, du racial, du sexuel à du social ne font qu'aggraver les choses. Et je ne crois pas que ce soit en mettant des minorités visibles à la télévision ou à l'Assemblée nationale qu'on réglera en quoi que ce soit, si vous voulez, les problèmes fondamentaux de la société française. Je ne nie pas que la République, comme système politique concret, a des zones d'ombre, a des coins, a des angles morts, a des coins noirs, etc. Bien sûr, évidemment. Simplement, l'hypothèse que je formule, c'est que la République, comme ensemble cohérent d'institutions, a plutôt eu tendance à réduire le développement des inégalités depuis 20 ou 30 ans, que face à cela, la réponse, c'est une réponse qui consiste à réfléchir aux inégalités de marché, et pas à substituer à l'égalité en droit, qui réduit plutôt, qui a tendance à contenir le développement des inégalités, une inégalité en droit, puisque la discrimination positive, c'est simplement dire que l'égalité en droit, ça ne fonctionne pas, et qu'il faut l'inégalité en droit entre groupes ethniques, entre groupes religieux, sexuels, etc. Et la parité de ce point de vue-là, moi j'en fais une critique assez sévère dans le livre, parce que je considère que si aujourd'hui peuvent se développer autant des revendications de discrimination positive sur base ethnique, c'est parce qu'on a voté la loi sur la parité. Par définition même, enfin, je veux dire, c'est une évidence. De la même manière que si aujourd'hui on a des lois mémorielles, loi Taubira, loi sur le génocide arménien, loi du 23 février 2005, c'est parce qu'on a voté une loi Guesso. Il faut quand même revenir à la racine des choses et voir quel est le fondement de cette dynamique. Simplement, pour conclure, évidemment la question du communautarisme dans le cas français, que je n'amalgame pas avec le cas des États-Unis par exemple, puisqu'il y a une cohérence historique dans ces deux nations qui font que des réponses politiques peuvent être adéquates dans l'un des deux cas et pas du tout dans l'autre. Cette question du communautarisme, elle ne peut se comprendre que si on a une réflexion plus générale sur la nation. Est-ce que c'est encore le cadre adéquat et pertinent d'une communauté politique, une nation entendue comme communauté civique qui rassemble des gens en dehors de tout critère secondaire, ethnique, religieux, etc. Bon, ou est-ce qu'il faut substituer à la nation à autre chose? Mais je pense bien qu'on ne peut parler que de substitution. On ne peut pas faire comme si on pouvait injecter de l'ethnique, du racial, du sexuel, etc. dans la nation et le système républicain, et que ça n'a aucun effet sur le système politique. Il est évident que ça le fait muter complètement. On ne peut pas faire comme si c'était neutre et qu'on pouvait s'accommoder d'un petit peu de communautarisme. Non, quand on met un peu de communautarisme, en plus, il y a une perversion de l'idée égalitaire, c'est-à-dire que c'est au nom de l'égalité qu'on met de plus en plus de communautarisme. Parce qu'à partir du moment où on donne aux uns ce qu'on refuse aux autres, par définition, le système craque de tous les côtés, hein, si vous voulez. C'est pour ça que quand on résiste à la corsisation des emplois, c'est pour une raison bien simple, c'est que si on fait la corsisation des emplois, il faudra faire la même chose dans les hommes-tomes, il faudra faire la même chose pour des minorités ethniques, religieuses, etc. C'est la seule. Ou alors c'est qu'on rentrera dans une logique de fragmentation géographique en plus, hein, si vous voulez. Mais c'est au nom de l'égalité aussi, c'est une des perversions, que se déploie l'idéal du multiculturalisme, du multicommunautarisme politique. Et en conclusion, le multicommunautarisme, s'il n'en reste qu'à la sphère privée, à la mise en commun de ressources, de réflexions ou autres sur des aspects identitaires, ne pose en rien problème à une tradition républicaine. C'est quand même être, je trouve, de mauvaise foi que de faire comme si dans la République ne pouvait pas se développer tout un ensemble de particularismes privés qui sont tout à fait libres de s'exprimer. Je veux dire, en France, vous êtes libre d'avoir les pratiques religieuses, de mœurs que vous voulez. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a comme une tolérance à la différence en France qui est bien plus importante que dans d'autres sociétés, que ce soit sur la question religieuse ou sur la question des mœurs. Le puritanisme en France, c'est une vaste blague. Le retour à l'ordre moral, bon, c'est la couverture de libération depuis 20 ans, mais bon, ça n'existe pas en réalité. Hein. C'est une invention totale. Donc on ne peut pas faire comme si on n'était pas déjà dans une société de liberté, hein, qui était plutôt caractérisée d'ailleurs par l'atomisation radicale et par l'existence d'organisations communautaires, organisées sur un mode un peu tyrannique, et plutôt que sur un mode de communautarisme démographique très structuré, de communauté fermée. Bon, voilà.